Говорит Москва.
Il fallait que je lise, il fallait que je comprenne.
Il n'y a pas d'argent magique.
Fuga dal mercato azionario con le borse in profondo rosso.
The higher you go, the fewer women there are.
Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.
Time will tell.
Russe Europe Express.
Jacques Sapir.
Clément Olivier. Les prochaines heures et jours seront critiques. Le risque de conflit majeur est réel et doit être évité à tout prix, s'inquiétait dans la nuit du 21 au 22 février la diplomate américaine Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques. Les tensions en Ukraine sont évidemment montées d'un cran, vous le savez, depuis la reconnaissance par la Russie des républiques autoproclamées du Donbass à l'est du pays. Un contexte qui a instantanément fait dévisser les bourses mondiales, déjà totalement frénétiques depuis plusieurs semaines. En lien donc, mais pas seulement, avec ce douloureux dossier ukrainien, prix des hydrocarbures, incertitude sur d'éventuels resserrements des politiques des banques centrales, les marchés ne savent décidément plus vous donner de la tête. Alors les dix marchés sont-ils en train de perdre leur nerf? Qu'augure cette fébrilité de la période et quel lien quand même avec l'économie réelle? Bienvenue à toutes et à tous, c'est Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour Clément.
Et en face de vous, Marc Touati, bonjour.
Bonjour Clément, bonjour Jacques.
Analyste
bonjour.
Économique et financier, vous êtes président du cabinet de conseil ACDFI, et puis les gens que ça intéresse et qui ont les compétences suffisantes peuvent vous suivre également en vidéo sur votre chaîne YouTube.
Merci. C'est grand public, hein, c'est pour tout le monde. Hein, c'est...
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Jacques Sapir, ça faisait quelques temps qu'on voulait reparler des incertitudes boursières et la patatras, le dossier ukrainien. On va donc extrapoler un peu ce sujet sur le côté économique, en laissant peut-être les relations internationales aux spécialistes.
Oui, tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. Les bourses du monde entier, de Paris bien sûr, mais aussi Londres, New York, Shanghai, connaissent depuis quelques semaines des fluctuations très fortes et très marquées. Alors naturellement, on en impute une partie aux tensions géopolitiques actuelles, sur la question ukrainienne bien sûr, mais aussi celle des relations entre la Russie et l'OTAN. Les opérateurs boursiers oscillent entre inquiétude et espoir, au gré des dépêches d'agences et des déclarations des uns et des autres. Alors rappelons ici que ce fut grâce à l'effondrement de Wall Street à la suite de l'assassinat de Lincoln en 1865, que l'Angleterre apprit la mort de ce dernier et que Reuters devint une véritable agence de presse. Mais revenons à ce que l'on observe actuellement. Si les tensions géopolitiques expliquent une partie des fluctuations boursières, les mouvements qui se sont produits sur les marchés internationaux dans la nuit du 21 au 22 février en témoignent, elles ne sont pas la seule raison.
De quelle manière en témoignent-elles?
Alors, les prix du pétrole, par exemple, sont montés à plus de 99 dollars le baril et les experts les voient durablement au-dessus de 100 dollars. La menace de nouvelles sanctions contre la Russie et peut-être évidemment de contre-sanctions qui seraient prises cette fois-ci par la partie russe contre les pays occidentaux doit être prise au sérieux, même si pour l'instant on parle plus de sanctions contre les individus. Mais ces tensions ne sont pas les seules en cause. Les incertitudes quant aux réponses des banques centrales face à l'inflation, et en particulier les incertitudes autour de la politique future de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne, mais aussi les incertitudes économiques globales, et l'on pourrait ici parler du marché des matières premières, nourrissent très largement ces fluctuations.
Et alors, fidèle à vous-même, vous trouvez qu'on peut relier ces différents sujets entre eux ?
Oui, effectivement. Une inquiétude particulière sur les tensions internationales engendre nécessairement une forte hausse des prix du pétrole, c'est bien connu, qui à son tour inquiète. Quant aux résultats des entreprises soumises, ils vont être évidemment dépendants des prix croissants de l'énergie. Donc on voit bien comment les inquiétudes vont voler d'un segment de marché à un autre, et on peut trouver effectivement une certaine rationalité à certains de ces mouvements. Mais il convient aussi de prendre un peu de recul. L'accumulation de liquidités, conséquence des politiques des banques centrales pour stabiliser la situation lors de la crise sanitaire, crée les ressorts d'une plus grande volatilité sur les marchés financiers. Alors, où investir? Et l'on parle bien sûr en termes boursiers, si l'avenir de l'économie réelle reste encore peu prévisible et si l'attitude des grandes banques centrales reste incertain.
Et cela renvoie à ce qu'on appelle les actifs refuges.
Effectivement, mais quels sont-ils aujourd'hui? Les crypto-monnaies sont tout aussi fluctuantes en réalité, et elles sont par ailleurs sous la menace d'une possible interdiction par les États. Mmh. Les obligations d'État sont, elles, dépendantes directement des politiques des banques centrales. Les matières premières, et l'on sait que le pétrole fut et reste utilisé comme une forme d'actif de réserve par un certain nombre de grandes banques, sont quant à elles à la fois dépendantes des conditions matérielles de production, du volume de la demande et d'autres facteurs techniques. On pense ici aux contraintes de stockage qui ont joué par le passé. Rappelons-nous la fameuse crise à la baisse de 2020, donc qui ont joué par le passé un rôle très important. Alors, l'instabilité des cours n'est-elle pas en train de devenir structurelle ? Au-delà des plaisanteries habituelles sur les nerfs des boursiers, bon, dont on a un peu usé et abusé depuis 2008, qu'est-ce que nous dit cette instabilité à la fois sur les institutions financières et sur les bourses qui sont elles-mêmes des institutions financières en réalité ? Qu'est-ce que cela nous dit sur les évolutions des économies réelles ? Car dans certains pays, aux États-Unis en particulier, une partie des ménages voient leurs revenus et leur capacité d'emprunt déterminés par les mouvements boursiers. Bref, la question s'avère à la fois plus importante, mais bien plus complexe qu'on ne le pense.
Et c'est bien pour ça qu'on s'y penche. Marc Touati, commençons par les tensions géopolitiques. Quel effet ça a eu sur les marchés ? Et puis tout simplement, pour les non-financiers qui nous écoutent, pourquoi est-ce que ça a un effet sur eux ?
Alors, l'impact est très clair. Hein, c'est-à-dire qu'on sort déjà, n'oublions pas, de 2 ans de pandémie, oui. Où on a eu quand même une récession historique. Alors après, il y a eu effectivement le quoi qu'il en coûte, on va dire mondial, pas qu'en France, qui a généré un rebond, mais une activité quand même extrêmement fragile. Et donc là, bien entendu, au moment où on sort la tête de l'eau, on est en train de nous la remettre, si jamais, effectivement, on a un dérapage. Je pense qu'aujourd'hui, les marchés paniquent, ils ont peur, évidemment, qu'on ait un dérapage conflictuel. Alors, c'est pas uniquement sur les deux provinces ukrainiennes, c'est plus jamais si, effectivement, les tensions s'exacerbent entre les différentes zones, avec un conflit armé, pourquoi pas ? Bon, j'y crois pas, mais enfin... Mais les marchés aiment bien un petit peu ces tensions, et donc, si tel est le cas, eh bien, évidemment, il y aura un ralentissement, voire une très forte baisse de l'activité mondiale, et puis, parallèlement, ben là, on vit déjà des premières conséquences financières sur, hein, Jacques l'a dit, l'augmentation des prix du pétrole, du gaz également. Oui, et donc tout ça va avoir des conséquences, sachant que nous avons déjà une inflation qui est très élevée, donc on va ajouter cette inflation. Et donc là, c'est un petit peu le piège se referme. S'il y a trop d'inflation, les banques centrales risquent d'être obligées de monter le taux d'intérêt, donc ça va casser l'activité, ce qu'on appelle en économie une stagflation, c'est-à-dire stagnation économique et inflation élevée. Et donc les marchés, évidemment, en ont peur, donc voilà pourquoi ils sont en train de reculer, mais... Au-delà de cela, le vrai problème,
c'est qu'ils sont en train de se stabiliser.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que ce qui était anormal, c'était la situation de 2021. Rappelons-nous, hein, on a eu effectivement donc en 2020 un effondrement, un krach boursier, et puis alors là, c'était la gabegie de dépenses publiques, la gabegie de planches à billets, ce sont les banques centrales qui ont acheté cette dette publique, donc ça ne s'est pas vu, ce qui a fait baisser donc les taux d'intérêt, les obligations d'État, une sorte de phénomène complètement anormal, et donc les marchés sont sous morphine depuis 2020. Alors il était déjà un petit peu avant, parce que la planche Chabier a commencé avant le coronavirus, mais avec le coronavirus, ça s'est aggravé, va-t-on dire. Et donc, normalement, en 2021, comme là, nous avons une reprise qui avait un petit peu d'inflation, normalement, les banques centrales auraient dû arrêter la fête, auraient dû arrêter ces injections de liquidités. Eh bien non, elles ont continué. C'est là où la bulle s'est reformée. C'est là où 2021 est une année extrêmement dangereuse. Et donc, 2022... Avant même le problème avec l'Ukraine, on avait un fort ralentissement des marchés boursiers, une baisse des marchés boursiers, justement une sorte ce que j'appelle une reconnexion à la réalité économique. C'est-à-dire que les marchés boursiers notamment ont été trop loin en 2021, et donc là ils revenaient vers une normalité, et c'est là où les banques centrales, pour moi, ont fait, excusez-moi l'expression, un sale boulot en 2021, puisqu'elles ont maintenu la planche à billets. Autant en 2020, je comprends, il y avait la récession, c'était dramatique, on ne savait pas ce qui allait se passer finalement. Donc là, on peut comprendre. Or là, elles ont maintenu encore jusqu'à aujourd'hui, hein, la planche à billets, taux d'intérêt à zéro, même si on prend la Banque Centrale Européenne, on a des taux d'intérêt négatifs, hein, sur le taux de ce qu'on appelle le taux d'escompte. Ça veut dire que si les banques laissent de l'argent à la Banque Centrale Européenne, elles payent 0,5%. Donc évidemment, ça incite à dilapider cet argent gratuit, entre guillemets, ou magique, comme certains veulent le dire. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on a perdu l'échelle des valeurs. Alors, Jacques en a un petit peu parlé, il y a eu on s'est réfugié, entre guillemets, vers les valeurs, les crypto-monnaies, par exemple, qui ont complètement flambé, et là, on le voit depuis quelques semaines, ça s'effondre complètement, hein, sachant qu'il n'y a pas de soubassement économique concret derrière. Donc, c'est là, je pense, le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, alors, on va dire, la crise ukrainienne, c'est un petit peu
le verre d'eau qui fait déborder le vase.
Vous disiez dans une vidéo récemment que l'inflation était plus dangereuse que l'Ukraine. Voilà. Évidemment, vous le disiez pour les marchés financiers.
Bien sûr, je ne parle pas d'un point de vue humanitaire, bien entendu, hein, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit stopper effectivement cette flambée boursière, cette bulle boursière, qui est très mauvaise, parce que aujourd'hui beaucoup nous, me disent par exemple, non mais c'est pas grave que les marchés montent, c'est très bien. Non, il faut de temps en temps des respirations. Donc, justement, se reconnecter à la réalité économique. Donc, on a des entreprises qui sont valorisées des milliards de dollars, ce qu'on appelle les licornes, par exemple, qui n'ont jamais gagné un centime. Vous savez, par exemple, il y a 800 licornes dans le monde. Les licornes, c'est des entreprises qui sont valorisées au moins 1 milliard de dollars, qui ne sont d'ailleurs souvent pas cotées en bourse. Sur ces 800 entreprises dans le monde, 800 licornes, combien ont gagné de l'argent? Combien sont profitables? 50.
Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation où on était avant la crise Internet?
Complètement. On a vécu exactement ça, hein, Jacques.
C'est-à-dire une déconnexion. Récemment, on était ici avec Jean-Michel Nolot, qui était un ancien régulateur de l'autorité des marchés financiers, qui faisait remarquer une chose évidente, mais dont on parle assez peu, que l'indice de Shiller, qui mesure en fait globalement, pour le dire simplement, l'écart entre la bourse et l'économie réelle, qu'il explosait, qu'il était au-dessus de 1929.
Encore une fois, la différence avec le crack de Internet, c'est qu'à l'époque, on avait le président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, qui était aux manettes et qui nous avait dit, écoutez, il y a une exubérance irrationnelle, il a monté les taux d'intérêt et la bulle s'est dégonflée. Là, la différence, c'est qu'en 2021, où on aurait dû dire, bon, maintenant, il faut arrêter les dégâts, et les banques centrales ont fait du clientélisme. Pour faire plaisir au marché, pour faire plaisir au gouvernement, on a maintenu la planche à billets. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Quand vous voyez, par exemple, Madame Lagarde, que j'aime beaucoup, mais qui dit, ben non, il n'y a pas d'inflation. Ça fait déjà 6 mois qu'elle dit, l'inflation n'est pas un problème. Vous voyez, alors que je suis économiste, moi, il y a un an que j'annonce qu'il va avoir l'inflation va augmenter, je ne suis pas devin. On voit les indicateurs avancés sur l'inflation, on le voit depuis un an que cette inflation va augmenter. Et donc, on a fait une sorte de déni de réalité. Et alors, la Réserve fédérale américaine a fait son mea culpa il y a quelques semaines, quelques mois, en disant, on s'est trompé, désolé. Donc maintenant, on va arrêter la planche à billets, là, au mois de mars, peut-être même augmenter un petit peu les taux d'intérêt, pour justement calmer le jeu. Alors que la BCE dit, non, on va continuer comme ça. On va arrêter une partie de la planche à billets, on va la continuer après le mois de mars, mais on ne touchera pas au taux d'intérêt, etc. C'est ça qui ne colle pas. Parce que autant, quand il y avait encore une fois la récession, etc., c'était normal d'avoir le taux d'intérêt à zéro. Autant aujourd'hui, avec une inflation qui, je vous rappelle quelques chiffres, on est à 7,5% aux États-Unis, un plus haut depuis le début des années 80. Dans la zone euro, on est à 5,1%, un plus haut depuis qu'on mesure la statistique de la zone euro, donc depuis 91. Donc, il se passe quelque chose. Comprenez.
Alors, réponse de Jacques Sapir. Là, on parle de l'inflation des prix à la consommation. Est-ce que c'est ça le problème?
Mais je voudrais là rebondir sur une chose. Est-ce que le problème pour la Banque Centrale Européenne n'est pas le fait qu'un certain nombre de pays de la zone euro ont des inflations très différentes? Par exemple, 5,4% en Allemagne, c'est vrai. Mm-hmm. Mais en France, la Banque de France attend au pire 3,5%. Mm-hmm. Donc, il y a bien une diversité des taux d'inflation. Alors, comment caler la politique de la BCE? Est-ce qu'il faut la caler sur le pays qui a le plus d'inflation ou par rapport au pays qui a le moins d'inflation?
Alors, si on prenait le pays où il y a plus d'inflation, type en Estonie, etc., on est, je crois, à plus de 10%. Non, mais il faut justement, c'est pour ça qu'on a une moyenne de la zone euro, globalement, où, bien entendu, l'Allemagne a un poids plus important que la France, etc. Mais, encore une fois, si on prend le cas de la France, c'est vrai qu'on a des subterfuges, vous avez vu, avec EDF. Globalement, on ne répercute pas la hausse des prix de l'énergie sur, effectivement, les prix de vente. Par contre, là, on ne peut pas tricher sur les prix à la production. Donc, que payent les entreprises? Et là, on a des sommets incroyables. 25% en Allemagne, 35% en Espagne, 16% en France.
Et là, maintenant que je suis bien, 35% en Espagne, 16% en France, 25%. Oui, mais l'ouverture d'un écart important.
On tombe effectivement sur la question de l'euro dont on avait parlé avec vous.
Exactement, mais là, on réconcilie tout le monde, c'est que nous sommes sur des sommets historiques sur la question des prix à la production. Donc, à partir de là, il faut réagir. Mais je suis d'accord avec Jacques, on l'avait dit d'ailleurs ensemble il y a quelques mois, c'est vrai que la zone euro, malheureusement, n'est pas ce qu'on appelle cette zone monétaire optimale. C'est ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de faire une politique aujourd'hui adéquate. Toujours est-il qu'on a des indicateurs globaux de la zone euro et la Banque Centrale Européenne doit réagir en fonction de cela. C'est sa mission. C'est-à-dire que, autant, moi j'étais contre quand il y avait Jean-Claude Trichet, qui dès qu'il y avait un peu d'inflation, il voulait monter les taux d'intérêt, c'est excessif, bien entendu. Autant là, c'est l'effet inverse. Donc il y a un juste milieu. Je ne dis pas qu'il faut monter les taux d'intérêt à 5%, bien entendu, mais globalement aujourd'hui, il faut réagir. Il en va de la crédibilité de la Banque Centrale Européenne. Parce que le vrai enjeu, c'est les taux d'intérêt de nos crédits. Donc les taux d'intérêt des obligations d'État et ensuite donc de nos crédits, si on n'est pas crédible. Si la Banque Centrale Européenne, du moins, n'est pas crédible. À ce moment-là, le risque, c'est que quand on va réagir, les taux d'intérêt des crédits vont exploser à la hausse. Et donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc, ce qu'il faut, c'est, comme on dit en anglais, faire un fine-tuning, un réglage fin, pour éviter justement d'avoir un trop fort dérapage. Mais regardez ce qui se passe sur les marchés marchés obligataires, hein, donc des aides publiques, ça a commencé. Les taux d'intérêt de la dette publique française oui. à 10 ans sont montés à 0,7%, même 0,8% pendant quelques jours.
Les Italiens, alors qu'on était négatifs. Les Italiens
sont montés à 2%, même à au 2. Plus haut. Les Grecs, à 2,7%. Ouais. Vous voyez, donc, sachant que c'est des taux d'intérêt tout à fait normaux, puisqu'on a une dette publique qui a explosé. Donc, là aussi, c'est normal que nous payons la facture. Mais jusqu'à présent, justement, cette politique de la Banque Centrale Européenne a été dangereuse parce qu'elle a créé ce que j'appelle un aléa moral. Comme en fait, se dit, ben, le quoi qu'il en coûte, ça ne coûte rien. Que taux d'intérêt sont à zéro, c'est la BCE qui achète, ben on s'en fiche,
mais
on continue.
Regardez les programmes. Justement, à ce sujet-là, sur ces politiques accommodantes de la Banque Centrale, à votre place ici même la semaine dernière, on était avec Florence Janicatrice, qui est une économiste alors hétérodoxe, qui nous disait que l'inflation des prix et la consommation, eh ben, elle n'était pas à proprement parler liée, en tout cas pas principalement aux politiques accommodantes des banques centrales, mais à d'autres facteurs liés à la désorganisation de l'économie, à la reprise avec la pandémie, etc. En revanche, ce qu'engendreraient ces politiques d'argent bon marché, c'est une inflation non pas des prix à la consommation, mais des actifs financiers. Oui, et donc, il y a s'il y a un resserrement, ça veut dire qu'il y a un danger d'éclatement de bulle.
Tout à fait, c'est le problème, effectivement, de l'indice des prix à la consommation. C'est-à-dire que c'est un indice global qui n'intègre pas beaucoup d'autres prix. L'inflation, elle est là, en fait.
Mais oui,
on
ne
la voit
pas. Rapport,
L'inflation, elle est effectivement sur les marchés voilà. boursiers, sur les marchés obligataires, sur les marchés immobiliers. Mmh. Donc, évidemment...
C'est des actifs de patrimoine. C'est des
tout
actifs
à fait.
De patrimoine.
Alors, je ne dis pas qu'on doit augmenter le taux d'intérêt, encore une fois, très fortement. Simplement, retrouver une politique monétaire normale. Ça veut dire en adéquation avec le niveau d'inflation. Alors, bien sûr que toute l'inflation n'est pas due à la demande. C'est clair, elle est liée à des facteurs exogènes, oui. ce que j'appelle la mauvaise inflation. Oui, mais il y a quand même, encore une fois, des facteurs qui sont liés, comme vous l'avez bien dit, où on a des bulles qui se sont formées, et avec des dangers sur les inégalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prends l'inflation française, effectivement, elle est à 2,9% en moyenne, mais parce que l'indice des prix, encore une fois, c'est une moyenne. Donc si je prends, par exemple, les biens alimentaires, c'est 16% du panier de la ménagère. Mais pour un ménage modeste, c'est beaucoup plus. Donc je me suis amusé, je vous donne un conseil, allez sur le site de l'INSEE, vous pouvez calculer votre propre oui, indicateur
oui,
d'inflation.
Oui, on en a parlé.
Mais ça, c'est très instructif. Et donc, j'ai fait simple une petite simulation en disant, voilà, si j'augmente la part de l'alimentaire et la part de l'énergie dans mon panier, l'inflation, elle monte très vite à 4,1%. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est très dangereux. Et c'est là où c'est le rôle des banques centrales, de garantir une inflation limitée et surtout la stabilité financière.
Alors, voilà, c'est là que je voudrais la réponse de Jacques Sapir quand Marc Toiti nous parle d'une politique monétaire normale. Votre réponse.
Oui. Alors, évidemment, on a tous dans l'idée, dans une situation où il n'y a pas de gros chocs exogènes, etc., eh bien, la politique de la Banque centrale devrait assurer un taux d'intérêt réel, parce qu'il faut faire attention,
bien
il
sûr.
Faut toujours raisonner là en termes de taux d'intérêt réel.
Donc c'est moins l'inflation.
Moins l'inflation, qui correspondent entre 2 ou 3%, parce qu'on estime que au delà eh bien, les actifs ne peuvent pas payer un tel taux d'intérêt. En deçà, eh bien, ça veut dire qu'il y a des actifs qui ne sont pas rentables, mais dans lesquels on pourrait investir, puisqu'on n'a pas beaucoup à payer. Bon, ça, c'est un petit peu la théorie. Le problème, c'est que, par expérience, on sait aussi que ce genre de situation existe très rarement. Il y a constamment des chocs exogènes. Alors, certains peuvent être très importants. Par exemple, la crise actuelle en Ukraine, c'est typiquement un choc exogène important. Les problèmes sur les hydrocarbures, c'est aussi un choc exogène tout à fait important. Bon. Mais, en fait, même en situation normale, il y a en permanence des chocs exogènes, pas nécessairement sur l'économie mondiale, ça peut être sur l'économie chinoise, sur l'économie américaine, sur l'économie européenne. Bon. Et donc, là, se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une politique monétaire normale dans la pratique ? Et dans la pratique, on voit bien que, un, les banques centrales sont obligées toujours d'ajuster leur politique à la situation de la zone sur laquelle elles opèrent, alors que ce soit un pays, quand c'est la Réserve fédérale américaine, ou que ce soit une zone de pays, mais elles doivent aussi tenir compte des autres banques centrales. Et c'est là où les choses se compliquent. Parce qu'on peut très bien avoir des situations qui sont différentes, par exemple, en Europe et aux États-Unis. Ça s'est déjà produit. Et donc, évidemment, on a des politiques des banques centrales qui sont différentes. Et qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, ça produit des mouvements sur les taux de change.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est un autre problème. Ce qui renvoie en fait à un problème, à mon avis, plus général, c'est l'instabilité des marchés financiers Et là, je pense qu'on pourrait être assez d'accord pour dire, bon, cette instabilité, elle a toujours existé, mais aujourd'hui, à cause justement du volume de liquidité qui a été émis depuis 2 ans, et qui a peut-être été émis effectivement de manière trop importante depuis un semestre, parce qu'on peut penser effectivement que depuis la fin du premier semestre 2021, on sentait que les économies étaient en train de revenir sur leurs pieds. Bon, après, évidemment, il y a eu les nouvelles vagues du Covid, le Delta, le variant Omicron. Mais bon. Eh bien, à cause de cette ampleur des liquidités, là, l'instabilité ou la volatilité des bourses est en train d'atteindre des sommets.
Ben oui, mais dans ce que vous dites, le problème, ce n'est pas la politique monétaire, c'est la bourse, Jacques Sapien.
C'est les deux. C'est les deux, parce que, oui, bien sûr, c'est la bourse. Bien sûr.
Non, mais alors justement, c'est là où effectivement, hein, Jacques, si vous permettez, c'est que les banques centrales, justement, sont là pour garantir une certaine stabilité, voilà. Pour éviter justement qu'il y ait des mouvements comme ça abrupts. Et c'est là où elles n'ont pas joué leur rôle l'année dernière. Alors, la question, c'est les pompiers pyromanes. C'est-à-dire que pour effectivement sauver le système, elles ont allumé le feu, en quelque sorte.
Est-ce qu'elles ne sont pas devenues prisonnières des mouvements boursiers ? Autrement dit, est-ce qu'un organisme dont le rôle est justement de stabiliser la situation, n'est pas devenu le prisonnier de cette même situation.
Russe Europe Express,
Jacques Sapir,
Clément Olivier.
Marc Toitier, est-ce qu'on ferme la bourse ?
Alors là, non, j'arrive pas jusque-là. Parce qu'il faut oublier que la bourse, encore entre guillemets, c'est le moyen de financer beaucoup d'entreprises. Là, ce où ça devient dangereux, c'est quand effectivement on a ces phénomènes de bulles ou de cracks qui font partie de la vie économique. Mais justement, c'est pourquoi on a les banques centrales normalement. C'est là où tout à l'heure j'ai parlé de clientélisme. C'est là où les banques centrales n'ont pas rempli leur rôle. C'est-à-dire que, encore une fois, elles sont là pour éteindre l'incendie.
Oui, de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort.
Exactement. Et surtout, encore une fois, ce que j'ai longtemps apprécié avec Alan Greenspan, par exemple, ou d'autres présidents de banques centrales, c'est que la politique monétaire doit être ce qu'on appelle proactive. Ça veut dire qu'elle ne doit pas se contenter de réagir sur les chiffres du passé, mais elle doit anticiper. Là, que faisons-nous aujourd'hui ? On est en train de réagir sur les chiffres d'inflation du mois dernier, voire des 3 derniers mois. Alors qu'on doit justement anticiper. Encore une fois, on est là pour ça, nous les économistes. Et quand je disais, en début d'année 2021, attention, l'inflation va augmenter, j'étais pas le seul. Les banques centrales, elles n'ont pas joué leur rôle. Elles ont fermé les yeux, elles n'ont pas voulu entendre, etc. En disant non, le déni de réalité, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas d'inflation. C'est là qu'est l'erreur. Et donc elles ont alimenté cette bulle. Effectivement, les marchés en ont profité. Mais on a justement des garde-fous. Par exemple, on a ce qu'on appelle le taux Taylor. Le taux Taylor, c'est un économiste américain, qui a donc justement dit quel serait le taux d'intérêt normal en fonction des deux objectifs de la banque centrale, la croissance et l'inflation. Eh bien aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, on a ton intérêt à 0,25%, on devrait avoir un taux normal, ça serait entre donc le taux Taylor, entre 2,5% et 3%. Dans la zone euro, entre 2 et 2,5%. On est à zéro. Donc je ne dis pas qu'on doit monter effectivement à ce niveau-là, mais au moins, il faut un juste milieu. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Je ne veux pas être méchant, mais il y a quand même un problème, de professionnalisme, de crédibilité des patrons des banques centrales en 2021. Encore une fois, l'erreur est humaine. Il ne faut pas s'enferrer dans l'erreur. De la même façon que Jean-Claude Trichet, à l'époque, avait été trop ultra-monétariste, orthodoxe, c'était une grave erreur. Autant là, on a été beaucoup trop laxiste. Et donc, les marchés, ça, c'est comme des enfants. Si vous ne leur donnez pas la bonne direction, ils font n'importe quoi.
Oui, c'est peut-être ça le problème,
voilà,
d'ailleurs.
Non, mais moi, ça fait 25 ans que je travaille avec les proches des marchés, va-t-on dire. Il faut leur donner les directions. Parce que, justement, si on ne leur donne pas les directions, bah, ils vont un peu dans tous les sens. Et donc, il y a des excès. Et maintenant, où c'est encore pire, je termine sur ça. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'aficionados des crypto-monnaies. Parce que là, on a des marchés financiers qui sont régulés. Mais si vous ajoutez sur ça tout ce qui est crypto-monnaie, etc., les NFT, tous ces trucs-là, là, il n'y a aucun régulateur. Donc, c'est l'armée mexicaine, c'est la jungle. Donc, là, ça devient très dangereux. Et moi, c'est ce qui me paraît un petit peu paradoxal. Quand on voit tous nos jeunes qui disent aujourd'hui, même mon fils, par exemple, « Papa, écoute, t'as tes vieux jeux quand même, enfin, ça y est, il faut investir dans les crypto-monnaies, etc. » Je dis « Moi, je ne peux pas conseiller d'investir dans un truc que je ne maîtrise pas. » Voilà. Et c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on retrouve le bon sens. On a perdu le bon sens. Mais par expérience, les marchés le retrouveront, quoi qu'il arrive. Peut-être que ce sera au travers d'une crise géopolitique ou autre. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens d'orienter les marchés et de mieux les contrôler.
Alors, Jacques Zabern.
Deux choses, parce que c'est très juste. Un, il faut des réglementations au marché. Ça, on voit très bien. Et alors, dans ta métaphore où tu parles, les marchés sont des enfants, il faut leur dire ce qu'il faut faire. Oui, mais de temps en temps, un enfant, on lui tape sur les doigts. Quand il franchit les limites, on lui dit non, ça, tu ne peux pas. Et si tu le fais, je te punis. Donc ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième problème. C'est que le rôle des marchés n'est pas le même dans tous les pays. Ah. On sait bien, par exemple, qu'aux États-Unis, pour la classe moyenne, la valeur de la bourse, il y a une telle financiarisation des revenus et surtout des pensions de retraite, puisque les retraites, c'est pas un système étatique, ce sont des systèmes d'entreprise, ce sont des systèmes de fonds de pension. Bref, donc là, il y a évidemment, et on peut comprendre que le gouvernement américain fasse pression sur la réserve fédérale pour lui dire il faut absolument ne pas provoquer de krach boursier, parce que ce krach boursier aurait des conséquences sur le niveau de vie et sur le revenu, non pas simplement de quelques opérateurs, mais d'une partie importante de la population.
Ça veut dire une crise humanitaire, hein, très concrètement.
Tout à fait.
Ce qui s'est passé, qui n'ont plus de revenus.
Tout à fait. Ce qui s'est passé en 2008-2009. Inversement, en France... quand même, le rôle du marché financier, le rôle de la bourse est nettement plus limité, y compris même d'ailleurs pour le financement des entreprises. Ouais. Il y a moins d'entreprises qui se financent en bourse en France qu'il n'y en a aux États-Unis. Les entreprises utilisent plutôt les banques pour se financer. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que la Banque Centrale Européenne devrait plutôt regarder la situation des banques en Europe ? Et devrait plutôt regarder la situation de la bourse aux États-Unis. Tu vois bien qu'il y a, de ce point de vue-là, une véritable dissymétrie dans le fonctionnement des marchés et dans les objectifs que devraient se fixer les banques centrales.
De la définition du bon sens, oui.
Oui, voilà, moi je dirais justement, c'est là le vrai enjeu, c'est qu'il faut un juste milieu. Je suis d'accord avec toi, parce qu'effectivement, on se tutoie habituellement, donc là, je ne savais pas si on pouvait faire qu'on était à l'antenne, on peut y aller, il n'y a pas de problème, on se connaît depuis tellement longtemps. Mais c'est vrai que...
Non, on se vous voit avec Jacques, mais...
Ah, d'accord, ok. Oui, on ne se connaît pas depuis autant longtemps que Jacques et moi, c'est pour ça. Mais non, le vrai enjeu aujourd'hui est là, c'est qu'on a effectivement cette situation sur les marchés financiers, où bien sûr, des ménages américains ont pris des risques et autres, mais là aussi, c'est aussi le rôle des banques centrales, comme tu l'as bien dit, de taper sur les doigts de temps en temps pour expliquer que les arbres ne montent pas au ciel. Mmh. Et ça, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération, justement, avec toutes ces crypto-monnaies, etc., on se dit, finalement, on peut y aller. Et on oublie l'essentiel. Ce que je rappelle toujours à mes étudiants, même quand je fais du conseil financier ou autre, le couple rendement-risque. Si on a un rendement élevé, c'est qu'il y a un risque élevé. Tout simplement. Donc, quand on voit, on nous fait croire qu'on peut investir dans n'importe quoi, que ça va flamber, etc. Non, ça veut dire qu'effectivement, il y a un risque derrière. Mais il y a une étude, je ne sais pas si tu l'as vu, qui a été publiée aux États-Unis, de la Fed de Saint-Louis, qui est très intéressante, qui montre que, aux États-Unis, 3 millions d'Américains ont quitté le marché du travail. C'est incroyable. Pendant cette pandémie, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, certains sont partis en pré-retraite parce que, ils en avaient assez. Et puis d'autres, notamment des jeunes, se sont dit, finalement, ça ne vaut pas le coup de travailler. On va faire, on va spéculer sur les marchés boursiers, sur les crypto-monnaies, etc. Ça, c'est très dangereux. Parce que là ça ne sert pas à ça, effectivement, les marchés financiers. Ce n'est pas que de la spéculation. Et donc, c'est là où, effectivement, le piège se referme, encore une fois. Parce que si on compte uniquement sur ça pour créer de la richesse... Et là, on se trompe. La création de richesse, elle vient du travail, elle vient de la création d'entreprises,
vous savez que les
etc.
marchés financiers, aujourd'hui, tournent majoritairement sur le marché secondaire, plutôt que primaire. D'où cette question, est-ce qu'on peut stabiliser les marchés tout en restant dans le cadre actuel ?
Non, parce que par définition, si vous voulez. C'est-à-dire que, globalement, on ne peut pas complètement contraindre les marchés. Sinon, ce ne sont plus des marchés. C'est-à-dire, c'est ce qui fait les marchés, c'est que, justement, il y a une certaine liberté, entre guillemets. Mais il faut des garde-fous. Et normalement, justement, c'est là où je pèse contre les banques centrales. C'est les banques centrales qui doivent jouer ce rôle de stabilisateur. Moi, j'appelle ça les gardiens du temple. C'est-à-dire que quand les politiques mentent, fassent du déni de réalité, ça, on a l'habitude. Dans tous les pays du monde, c'est malheureusement, c'est la même chose. Mais que les banques centrales, qui sont les gardiens du temple, fassent la même chose en disant « Mais non, il n'y a pas d'inflation. Je maintiens mes taux d'intérêt à zéro pour faire plaisir au marché, pour faire plaisir au gouvernement. » Ça, c'est dangereux. Donc c'est là où, effectivement, je pense que ce coronavirus, et d'ailleurs ça m'a donné une idée de livre, alors peut-être que ce sera mon prochain, mais on a perdu l'échelle des valeurs. Je pense que c'est ça la difficulté, parce que c'est ce qu'il y a de bon dans l'économie. Vous savez, le monde bouge, le monde change, mais il y a des règles de base, notamment pour fixer effectivement la valeur des choses, que Saint Thomas d'Aquin appelait le juste prix. Mm-hmm. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, ça. Donc le problème aujourd'hui, il est là. C'est qu'on n'a plus de juste prix. On ne sait plus quelle est la valeur des choses. Regardez, la dette publique aujourd'hui, elle a explosé. Si je prends le cas de la France, mais pas seulement, mais on a tout intérêt. Bon, là, ils remontent, mais ils étaient à zéro. Ils étaient même négatifs. C'est-à-dire, pour avoir le droit d'acheter la dette publique française, il fallait payer. Ça n'a pas de sens. Alors moi, je m'amusais, je posais la question à certains investisseurs, notamment américains, qui avaient acheté cette dette publique. Je dis, mais quand même, vous achetez la dette publique française, alors taux d'intérêt négatif, vous êtes sûr de perdre. C'est ce qu'ils me répondaient. Oui, mais au moins, on sait combien on va perdre.
Oui. Okay. Et oui, c'était un raisonnement.
Oui, mais ça n'a pas de sens. C'est pas ça, effectivement, les marchés financiers. Donc, il faut retrouver un certain juste prix. Et j'espère que ça va arriver, effectivement, en 2022 et les années suivantes.
Jacques Sapien.
Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit, qui me semble extrêmement important. C'est le développement d'une mentalité de jeu, d'une mentalité de spéculation dans une société. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui accompagne tous les grands cracks, ou plus exactement, qui accompagnent toutes les phases ascendantes qui sont juste avant le grand crack. C'est Schiller, d'ailleurs, qui l'avait remarqué dans son livre Irrational Exuberance, qui a été publié, dans la deuxième édition, a été publié, je crois, en 2005 ou en 2006, juste avant la crise de 2008, et qui montrait que en 1928, les jeux d'argent avaient explosé aux États-Unis et que l'on voyait la même chose dans la période de 1999, 2004, 2005, c'est excellent. Alors, ça pose une vraie question. Si on assiste aujourd'hui aux États-Unis, mais peut-être assiste-t-on aussi ça, sous une forme plus embryonnaire, en Europe, à cette explosion de la mentalité du jeu, le gambling, est-ce que ce n'est pas annonciateur d'une grande crise qui serait à venir?
Voilà, le petit jeu de la prospective, Marc.
Oui, alors, si vous voulez, moi, je suis entièrement d'accord. C'est d'ailleurs pourquoi, des fois, on me reproche, on me dit, oui, mais bon, vous aviez dit, par exemple, en 2021, je dis qu'il allait avoir, effectivement, un mini-crack boursier. Ah ouais, mais finalement, ça a boosté la bourse. Ben oui, parce que, dans mon scénario, j'avais dit, on va avoir une croissance qui va redémarrer, l'inflation qui va redémarrer, donc les banques centrales vont faire leur boulot, absolument, elles vont monter les taux, elles vont arrêter la planche à billets, et les marchés vont baisser. Sauf qu'on ne l'a pas fait. Donc, c'est là où, effectivement, on a pris un risque énorme. Et donc, bien entendu, qu'aujourd'hui, en tant qu'économiste, qui suit l'économie depuis plus de 25 ans, je suis effectivement inquiet. Parce que on a des phénomènes où, justement, annonciateurs, entre guillemets, de crack. Parce qu'on a perdu le sens des réalités. On a perdu le bon sens.
Et justement, Jacques Sapir, est-ce que ce qui se passe avec ce dossier ukrainien, ça ne pourrait pas pousser les banques centrales à maintenir leurs politiques accommodantes?
Tout à fait. Et on peut voir qu'il y a aujourd'hui deux interprétations qui sont possibles de la crise ukrainienne. Celle qui dit, bon, la crise ukrainienne est en fait limitée, mais ça va, d'une certaine manière, faire peur aux dirigeants politiques, faire peur aux dirigeants des banques centrales, et donc ils vont plutôt modérer leur rétablissement d'une politique plus restrictive, ce qui veut dire, bon, bien sûr, il y aura deux ou trois augmentations de taux, mais il n'y aura peut-être pas les cinq ou six augmentations de taux aux États-Unis qui étaient prévues. Même chose, la BCE, au lieu d'agir au mois d'avril, pourrait agir peut-être au mois de septembre ou dans l'été. Donc, pourrait y avoir un décalage et une forme de, je dirais, d'assouplissement résiduel. Ça, c'est une possibilité. Et puis, on peut avoir l'autre idée qui consiste à dire, oui, mais si cette crise, même si elle ne dégénère pas aux extrêmes, hein, même s'il n'y a pas une montée aux extrêmes d'un point de vue géostratégique, si on voit monter fortement les incertitudes, est-ce que ça ne peut pas casser la consommation, casser l'investissement, surtout, et par là, provoquer une véritable crack. Et c'est ça qui est aujourd'hui difficile à analyser, même si on peut penser qu'il y a plus d'arguments qui vont dans le sens de la première hypothèse, hein, qui consiste à dire que, bon, OK, il y a une période de forte tension, mais d'une certaine manière, aucun acteur n'a intérêt à ce que cette situation dérape, aucun acteur n'a intérêt à ce que l'on aille vers le pire. Néanmoins, il y a toujours la deuxième solution qui est possible.
Voire une troisième qui serait un conflit très violent. Ouais.
Alors, le conflit très violent, là, je pense, peut être exclu, ou alors un conflit très limité. Pourquoi ? D'abord, tout simplement, parce que entre puissances nucléaires, il n'y a pas beaucoup, je dirais, d'avenir dans un conflit très violent. Il faut le dire.
Mais l'Ukraine n'en est pas une.
Voilà, l'Ukraine n'en est pas une. Mais on voit bien que s'il y avait, par exemple, une offensive majeure de la Russie contre l'Ukraine, il me semble difficile, au point où ils se sont engagés, que les pays de l'OTAN n'interviennent pas, en tous les cas, pour défendre Kiev et la partie occidentale de l'Ukraine. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, s'il y a un conflit qui démarre en Europe, on peut être sûr que les Chinois se réveilleront et commenceront à agiter la question de Taïwan. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il n'y a pas de conflit. La Russie n'a aucun intérêt à un conflit. Et en fait, l'OTAN et les États-Unis n'ont pas réellement d'intérêt à un conflit. Bon. Mais les deux hypothèses que j'ai évoquées tout à l'heure, elles, restent possibles.
Alors, même question, Marc Toiti, ouais. Effectivement, est-ce que ce dossier pourrait inciter les banques centrales à continuer les politiques accommodantes? Et donc, selon vous, à repousser le problème, en fait.
C'est pourquoi, tout à l'heure, j'expliquais, je disais, l'inflation plus dangereuse que l'Ukraine, entre guillemets, parce que c'est ça qui est complètement fou. Au fur et à mesure que justement on avait des bruits de bottes en Ukraine ou pas, donc eh bien on remettait au lendemain l'intervention des banques centrales et donc les taux d'intérêt des obligations d'État repartaient à la baisse. Et donc on se dit ben finalement c'est formidable cette crise, que grâce à cela, comme quand on a vu le variant Delta par exemple, c'est formidable parce que globalement grâce à cela les banques centrales vont continuer leur injection de liquidités, ne vont pas remonter leurs taux d'intérêt et donc les marchés vont pouvoir continuer leur bulle. C'est complètement fou. On marche effectivement sur la tête. Mais donc, il y a une force de rappel qui s'appelle effectivement l'inflation, qui est là, qui va durer encore au moins 6 mois. Après, elle va certainement partir à la baisse. Et donc, qui va imposer effectivement aux centrales de remonter leur taux d'intérêt et donc de calmer le jeu. Mais c'est vrai que dans le scénario du pire, bon, là, bien entendu, on ne l'imagine pas. Mais pour l'instant, ce qui se dessine quand même, malgré tout, c'est que vu ce qui s'est passé, et si on s'arrête là, il y aura quand même ce risque de stagflation, c'est-à-dire d'inflation élevée et d'économie qui va quand même être affectée. Mais globalement, avec des banques centrales qui vont devoir arrêter leur planche à billets, donc arrêter ces bulles des marchés financiers. Encore une fois, un dégonflement de bulles, c'est pas grave. C'est simplement, on revient vers la réalité. On pourra repartir ainsi sur des bases plus saines. Aujourd'hui, on n'est pas sur des bases saines, on est sur des bases dangereuses, des bases de bulles. Et c'est là où, globalement, à partir de là, on peut avoir des cracks et autres. Et c'est ça qu'il faut éviter. Des corrections, c'est sain, c'est salutaire. Des cracks, c'est plus difficile, effectivement, à gérer.
Alors, je veux bien votre avis, Jacques Sapir, sur l'hypothèse stagflation.
Alors, moi, j'avoue que je ne crois pas à la stagflation à l'ancienne. Il faut se rappeler, quand le mot a été créé dans les années 70, on avait une situation qui était assez différente. D'abord, on n'avait pas du tout ce rôle dominant des marchés financiers. On était dans une situation où on était beaucoup moins financiarisé. Et qu'est-ce qu'on avait ? On avait effectivement...
C'était le tout début, en
c'était,
fait.
C'était le tout début. On avait des pressions inflationnistes qui venaient d'un problème de répartition de la valeur ajoutée. Et là, ni le camp, on peut dire, des producteurs, ni le camp des ouvriers, ni le camp des bourgeois ne voulaient céder la moindre chose là-dessus, il y avait effectivement une montée vers la hausse des prix. Et d'un autre côté, il y avait l'épuisement d'un certain régime de croissance qui avait porté les 30 glorieuses, qui avait porté le développement de l'Europe, avant qu'on ne trouve de nouvelles sources de croissance qui ont été trouvées en particulier à travers l'informatique, l'électronique. Donc, on est dans une situation très particulière. Aujourd'hui, on voit bien que s'il y a cette espèce de combinaison de faible croissance mais de forte inflation, le cœur du problème est essentiellement là, dans la financiarisation. Ce qui pose effectivement un problème, qui consiste à dire, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des marchés financiers pour le financement d'un certain type d'entreprise, mais n'est-on pas allé trop loin dans ce domaine ? Ne faudrait-il pas revenir sur une partie de la financiarisation ?
Et alors, que la finance joue son rôle de financeur, Marc. C'est-à-dire, comme on le disait, le marché primaire et pas secondaire.
Voilà, c'est ça. Non, encore une fois, on a oublié aujourd'hui... On fait le test, je suis sûr. On demande à quoi ça sert la bourse. On veut dire à faire des plus-values. Non, la bourse sert à financer l'entreprise et surtout à toucher des dividendes. Oui. C'est ça le vrai enjeu. Et pour renforcer ce que disait
Qui viennent de l'économie réelle.
Et qui viennent, exactement, qui viennent de l'économie réelle. Mais là où c'est encore plus dangereux, justement, qu'en 70-80, c'est qu'à l'époque, il y avait l'URSS, le bloc communiste, etc. Maintenant, vous avez donc, il n'y a plus de pays, ou quasiment plus de pays communistes. Tous les pays ont des marchés financiers, même la Chine.
Bien sûr.
C'est ce que je veux dire. Donc, et les Chinois, comme vous le savez, c'est des vrais gamblers, c'est des vrais joueurs. Oui. Ils adorent, mais bien plus que nous, ils adorent la bourse, ils adorent investir, ils adorent prendre des risques, etc. Plus tout ce qu'on appelle le monde émergent au sens large, qui n'était pas développé à l'époque. Donc bien sûr, ces marchés financiers sont devenus de plus en plus puissants aujourd'hui, avec bon, évidemment des fonds d'investissement qui sont plus puissants que des États, etc. Donc c'est là où aujourd'hui, oui, il faut, je pense, mettre le haut là, comme on dit.
Et qui retiennent en otage, en fait, comme disait Jacques Sapir, les banques centrales. Un mot de conclusion.
Moi, je pense que justement, encore une fois, les banques centrales, elles peuvent, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que finalement, elles peuvent sortir, mais elles ont envie de faire plaisir à leurs preneurs d'otages. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, elles doivent retrouver leur rôle. Elles peuvent justement retrouver leur rôle en faisant en sorte que les marchés, justement, évitent ces bulles durables. C'est vrai que ça peut faire mal pendant un certain temps, mais encore une fois, on a besoin de respiration. Les crises font partie de la vie économique. Vouloir supprimer les crises n'a pas de sens, parce que quand elles arrivent, elles seront encore plus dangereuses. Comme dans les années 20, on ne voulait pas qu'il y ait de crise, on a vu comment ça s'est terminé, comme en 2008, on a vu comment ça a failli se terminer. Donc là, attention, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que, comme on a tout utilisé, toutes nos cartouches pendant la pandémie, si maintenant il y a une crise qui arrive, que ce soit géopolitique ou financière, comment va-t-on faire pour relancer la machine ? On n'a plus de cartouches. Donc c'est ça le vrai enjeu. Il faut reconstituer nos cartouches et limiter justement tous ces déboires. Mieux vaut des petites tempêtes que des cracks.
Un mot de conclusion, Jacques Sapir.
Oui, je pense que cette formule, elle est très juste. Maintenant, elle pose d'autres problèmes. C'est le développement de marchés non régulés. Tu l'as dit,
avec encore pire, ça, bien sûr.
Des crypto-monnaies, il faut absolument réintroduire de la régulation, de la réglementation en bon français, régulation étant le mot anglo-saxon, mot britannique. Il faut réintroduire de la réglementation dans les marchés financiers, et je crois qu'il faut aussi réintroduire de la réglementation au cœur même du système, en expliquant que, effectivement, le marché boursier ne peut pas être ouvert à tous dans toutes les circonstances. Que le marché devrait être resegmenté avec des segments qui servent essentiellement à l'investissement des entreprises émergentes, qui sont donc des segments risqués et qui doivent être laissés à des professionnels de cela. Et puis, le financement de choses qui sont beaucoup plus importantes, qui sont, on peut dire, des entreprises, des très grandes entreprises, les banques de dépôt, etc., où là, on peut admettre que c'est beaucoup plus ouvert au public. Donc, cette idée d'une resegmentation et d'une re-régulation me semble importante. Le problème, c'est que ça va complètement à rebours de tout le discours économique qui s'est tenu depuis, rappelons-nous, le Big Bang de la City en 1986 et ce qui a suivi par la suite. Autrement dit, il faudrait revenir sur quasiment 35 ou 40 ans d'évolution du système financier.
Voilà, merci beaucoup Marc Toiti.
Avec plaisir.
De vous être joint à nous pour ce numéro. Merci bien sûr aussi à vous, cher Jacques Sapir. Une émission mise en ondes et en images par Jeanne D'Amato, Pippo Picci, Evgeny Poloïko. Vous qui nous suivez chaque semaine, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en vidéo ou en podcast pour ne rien manquer. On se retrouve au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, à l'Est ou à l'Ouest, plus que jamais, faites pas vos Jacques et à très bientôt.
This is not a method. This is a provocation. Let them do. No.